Alors, vous savez que les députés, là, ils ont bien bossé.
Ah oui,
à Bassa. Oh,
presque deux mois consécutifs.
Ils ont même travaillé.
Ah, ils n'en peuvent plus, là.
Ils ont travaillé toute la nuit, enfin plusieurs nuits de suite.
Oh mon Dieu.
Ils vont s'arrêter de travailler le 6 ou le 7 août, donc dans une semaine. Et après, on ne va pas les revoir avant début octobre. Parce qu'il n'y aura pas, et c'est la première fois depuis 20 ans, de session extraordinaire en septembre. En général, il y avait une session extraordinaire, il n'y en aura pas. Et donc, ils vont reprendre le boulot en octobre. C'est la première fois depuis 20 ans, donc ça fait quand même une grosse coupure. Alors certes, les travaux en commission vont reprendre un peu plus tôt, il faut être honnête, mais tout le monde ne travaille pas en commission parmi les 577 députés. Alors, est-ce que ce rythme, ça vous surprend?
Une aberration.
Une aberration, Mehdi.
C'est incroyable, mais c'est du foutage de gueule. Mais tu demandes aux gens de faire des efforts sur le travail, tu demandes aux gens de faire des efforts sur la clim, tu demandes aux gens de faire des efforts sur l'électricité, tu demandes aux gens de faire des efforts sur la retraite, et toi, tu viens, t'as été élu député au mois de juin, tu viens, tu tapes deux mois de vacances après deux mois de travail à 6 000 euros par mois. Et après, vous vous dites pourquoi les gens ne supportent plus la classe politique. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a plus rien à dire.
Surtout que cette année,
il n'y a plus rien à dire. C'est normal qu'il y ait un rejet, qu'il y ait un déni comme ça de la classe politique, qu'il y ait un rejet massif, que les élections n'attirent plus, qu'il y ait un taux d'abstention d'une telle importance. C'est normal. Parce que c'est un foutage de gueule en direct. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Les gens se sont fait élire au mois de juin les législatives. C'était au mois de juin. Les gars, on est début août. On est fin juillet. Le 7 août, ils sont en vacances. Et ils prennent deux mois de vacances à 6 000 euros par mois.
Pas si deux mois de vacances.
Ils prennent 5 400 euros par mois.
Olivier,
tu veux jouer sur les mots. Ils prennent 45 jours de vacances à 5 500 euros. Excusez-moi.
Non, je me suis trompé. Le reste de l'année, ils bossent.
Alors, c'est vrai que quand même. C'est quoi? C'est les 5 semaines de congé payé?
Non, alors. C'est les 5 semaines.
C'est un peu plus parce que.
Tu sais très bien qu'il va avoir après les vacances de Noël, après il va avoir les vacances de. Arrête, c'est du foutage.
Alors, c'est vrai qu'en 2022.
C'est la classe politique.
C'est vrai qu'en 2022, ils n'ont quand même pas énormément travaillé parce que pendant la campagne présidentielle, il n'y a pas eu de travaux parlementaires. Souvenez-vous, pendant plusieurs semaines cet hiver, comme il y avait la campagne présidentielle, l'Assemblée était fermée. C'est d'ailleurs, il y avait eu débat, c'est pour ça que on avait prolongé l'état d'urgence sanitaire avant, parce qu'on pouvait pas le faire pendant la campagne présidentielle. Donc l'année 2022, pour l'instant, en tout cas pour les députés qui ont été réélus, ça a été une année quand même assez tranquille, parce que effectivement, pour cause de campagne. Alors les députés, quand tu leur dis ça, disent oui, mais attendez, nous on était en campagne, c'est-à-dire qu'on a fait campagne, on a fait la campagne présidentielle, donc on est sur le terrain, on est épuisé. Ouais. C'est vrai, quand tu les rencontres, les députés, ils disent on est crevés, il est temps qu'on se repose. Joël.
C'est pour ça, je crois qu'ils ont travaillé en dehors des moments où on ne les voyait pas assis dans l'hémicycle. Et puis de manière générale, je les trouve assez excités. Donc, ce serait bien aussi qu'ils aillent se reposer et qu'ils reviennent un peu plus sereins. Donc, moi, je suis toujours pour le repos. J'aime pas quand le président part en vacances et qu'on dit ah, il part en vacances, machin. Je crois qu'on a besoin d'esprit frais. Je crois que ça demande énormément de temps de diriger un pays tel que la France, avec qui est pas facile à diriger. Et je crois que c'est pas très grave qu'ils aillent se reposer, qu'ils reviennent tant qu'ils travaillent ensuite.
D'autant plus qu'Emmanuel Macron a une piscine maintenant aussi à Brégançon.
Il a une piscine à Brégançon.
Il a fait construire une piscine en sol lui-même. Il est finalement comme tous les Français, il a soif de piscine.
Je vais faire un tour des piscines, moi. Je
pourrais aller à Brégançon. C'est Léa Falco.
Alors déjà, soyons honnêtes, ils ne vont pas être en vacances pendant deux mois. C'est pas seulement les travaux parlementaires. Il va y avoir un certain nombre de travaux déjà en groupe. Ils vont prendre deux, trois semaines de vacances tous, à un moment ou un autre entre.
Faisons pas
début
le parlementarisme privé.
Voilà, soyons pas démagogues à ce point-là. Ils vont aussi travailler les textes en partie. Ils vont partir en région parce qu'ils ont quand même des permanences à animer dans leur circonscription. Et puis, Mehdi, tu confonds, en disant qu'il y a un rejet de la classe politique, tu confonds la classe politique et le fonctionnement des institutions. Les vacances parlementaires, il y en a toujours eu. Et pourquoi est-ce que là, on a l'exception de septembre? C'est aussi parce que c'est une situation difficile pour la majorité, qui justement a perdu sa majorité absolue, qui doit composer avec des oppositions, et qui du coup doit prendre du temps en bilatéral, ou en tout cas de manière plus proche des députés de l'opposition, pour avoir un résultat constructif à la rentrée.
Donc, budget à voter à la rentrée.
Voilà, la question, il faut bien se rendre compte que c'est pas du tout la même situation que tu as pendant la plupart des échéances de vacances parlementaires, qui est d'avoir une majorité absolue.
Moi, je sais pas, mais je pose la question, est-ce que c'est pas si mal, parce qu'en France, on vote trop de loi. lois. Il y a trop de lois votées. La plupart d'ailleurs ne sont jamais appliquées. Sont jamais appliquées parce que les décrets d'application ne sont pas
adoptés. Non,
mais c'est très long. Il y a trop de lois. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Les spécialistes se disent. Il y a une espèce de surenchère législative parce que chacun veut faire sa loi. Peut-être que c'est pas une mauvaise chose cette majorité relative pour ça justement parce qu'il y aura moins de lois parce que elles vont passer plus difficilement. En tout cas, les projets de loi, il peut y avoir des propositions de loi. Projets de loi, c'est-à-dire qu'émanant du gouvernement, il y en aura moins.
Et en tout cas, ça force LREM à avoir un calendrier, ce qu'ils n'avaient pas du tout dans les 5 dernières années. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir au moins 6 mois de calendrier prévu avec une proposition.
Donc toi, ça ne te choque pas qu'ils reprennent début octobre
Mais non, parce que c'est pas des vacances où ils vont être farniente aux îles Caïmans non plus. Ils vont avoir 2-3 semaines de vacances et ils vont quand même continuer à travailler.
Mais statistiques de l'activité parlementaire sur la 15e législature, Assemblée nationale.
Léa, fini, après-midi, tu
vas finir. Merci. Je t'en prie.
Merci Mehdi, c'est gentil.
Je t'en prie Léa.
Mehdi a des chiffres.
Vas-y
Super,
Léa. Vas-y.
J'adore quand on
s'en dit. Vas-y Léa, je t'en prie.
Il faut aussi voir que c'est un rythme qui, je pense, est assez contestable sur ces projets de loi, justement, parce qu'on a des gens aujourd'hui qui votent les lois françaises à 4h du matin, à 5h du matin, et qui reprennent le lendemain à 9h. Donc c'est des rythmes aussi qui sont assez curieux, pas seulement pour les êtres humains, mais sur le fonctionnement des institutions.
Du coup, ça plaît plutôt pour les faire travailler cet été, parce qu'au lieu de tout faire à l'arrache en une semaine, parce qu'il fallait à tout prix que le pouvoir d'achat soit voté en une semaine, on aurait pu se prendre une semaine de plus au mois d'août et ne pas faire siéger les gens à 4h du matin. Moi, c'est ça tout l'aberrant.
Le problème, c'est que c'est encore le problème dont je parlais d'avant, c'est que tu as des oppositions et qu'en fait, c'est pas tant des problèmes de temps que des problèmes de fonctionnement interne de l'Assemblée.
Moi, je pense que c'est une question de calendrier. On veut faire rentrer toujours les choses trop rapidement.
Après,
on veut que les mesures soient appliquées aussi rapidement.
Parce que ça fait 5 ans que
l'ERM a été
critiqué là-dessus, d'amener au dernier moment les propositions.
Statistiques d'activité parlementaire.
Vas-y.
64,2% de présence sur les 577 députés du 1er octobre.
Mais ça, c'est pas les vacances.
En 21 juin 2022.
Donc, il y a déjà beaucoup de parlementaires qui ne sont pas là.
Je suis désolé.
L'absentéisme parlementaire. Et est sanctionné maintenant.
Et après, tu me tapes. Non, ils sont pas en vacances. Ils vont
Vas-y, redonne ton chiffre.
64,2%.
Non, mais devant le micro, sinon on n'entend rien.
Du 1er octobre 2021 au 21 juin 2022.
Mais ça, c'est des parlementaires qui manquent d'intégrité et je vois pas pourquoi.
D'accord.
Mais on leur ajoute une semaine de travail, je vois pas en quoi ça va leur redonner une intégrité exceptionnelle.
Non, pas plus.
Moi, ce que je comprends pas, Joël, c'est qu'on demande aux Français de faire des efforts et que ceux qui font les lois que les Français doivent appliquer pour faire des efforts, pour travailler plus, pour gagner plus, pour ils ne le respectent pas. Ils se permettent. Enfin, à un moment, c'est le deux poids deux mesures qui me dérange.
Ceux qui font les lois.
Joël, je suis pas de gauche. Enfin, tu me connais, tu sais très bien que je suis un gars de droite.
Mais depuis le début, t'es pas de gauche, me dis.
Mais à un moment, il faut juste être un peu. Léa, s'il te plaît, arrête de me couper la parole. Ça devient embêtant. Non, mais voilà. Ça me fait pas rire. La seule chose, c'est ce que je dis, c'est que. À un moment, tu peux pas dire fais ça et moi en attendant je me tape 45 jours de congé après 2 mois de poste ou 1 mois et demi de poste. Les législatistes, il y a même pas 2 mois. Tu te tapes 45 jours de congé. Tu me dis oui, mais il y a des commissions sur les 577 députés. Combien réellement sur les 577 députés vont revenir en septembre? Tu sais très bien qu'ils vont tous revenir fin octobre. Quand il y aura la plus grande partie va revenir mi-octobre.
Mais pardon, Mehdi, j'ai envie de dire que c'est assez humain dans toutes les boîtes. Mais pardon, Mehdi, il y a les gens qui bossent.
Mais oui,
mais
ils sont payés par nos impôts. Mais ça, c'est pas une boîte classique.
La fonction publique.
Oui, mais ça, c'est pas justement. Mais eux font les lois, mais la fonction. Mais excuse-moi.
C'est humain.
Mais frérot, excuse-moi. Ça me tue, je dis ça, Olivier. Olivier, ces gens-là sont là pour te donner une direction de ton pays.
Je
les vois pas trop beaux, justement.
Je pense qu'ils sont le reflet de la société humaine dans les boîtes, que publiques ou privées. Il y a des gens qui bossent beaucoup, qui bossent bien. Il y en a qui sont moins bien. Il y a des tirs au flanc. Voilà, c'est
Mais Léa nous a expliqué exactement ce qu'ils faisaient en leur absence dans l'hémicycle. Donc, effectivement, ils vont prendre quelques jours de congé et heureusement. Mais il y a eu la campagne présidentielle, il y a les circonscriptions dans lesquelles ils doivent aussi se rendre. Donc, je ne pense pas qu'ils vont être 45 jours à rien faire, sauf ceux qui, de toute façon, ne faisaient déjà rien.
Ah oui.
Voilà, c'est tout.
Ça ne change rien.
Sur la question de la présence aussi parlementaire, il y a aussi il y en a un certain nombre qui, effectivement, ne sont pas du tout investis. Vous avez aussi des gens qui, parce qu'ils ne font pas partie de commission, ou parce qu'ils font partie de commission, qui ne sont pas intervenants de cette semaine-là, sont comptabilisés comme n'étant pas présents, parce qu'ils continuent à travailler, mais ils sont simplement pas présents dans le Parlement. Donc c'est aussi une de ces questions-là. Mais là, on a un député LREM qui va venir juste après. Peut-être que Mehdi peut nous chercher son taux de présence sur 2012-2017.
Mais avant ça, c'est le quiz des GG Anaïs Sens.
En direct du plateau 1 d'RMC. Les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
En 2012-2017, on était
top. Bonjour les GG, salut Mehdi.
Bonjour Anaïs.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est aujourd'hui le jour du dépassement des ressources de la planète. Du coup, ce quiz est pour toi, Léa. On va voir si t'es incollable sur le réchauffement climatique.
Incroyable.
De quelle hauteur sera la montée des eaux sur les côtes françaises d'ici la fin du siècle ?
Le GIEC, au global, il dit entre 0,70 et 1 mètre. Mais au global, alors, donc sur les côtes françaises, je ne sais pas combien, ça va être beaucoup moins.
Dans les pires projections, effectivement, mais dans les projections les plus optimistes, 40 cm. Mais 1 mètre, effectivement, si la hausse des températures n'est pas contrôlée, et avec 1 mètre d'augmentation des eaux, bah, le bassin d'Arcachon disparaîtrait de la carte. Et pire, avec 3 mètres, alors à l'horizon 2200-2300,
oui, longtemps.
L'île d'Oléron, Deauville, Trouville, Cabourg, c'est fini, et la Seine pourrait se jeter dans la Manche, non plus au Havre, mais à hauteur de Rouen.
Mais là, adieu ta maison, Cap Ferret.
Des trucs comme ça, on aura le temps de s'adapter. Le problème, c'est que si ça commence, ça ne s'arrêtera pas parce que c'est des fontes
c'est des fontes rétroactives. Justement, alors, d'après les spécialistes, quelle ville, c'est le quiz catastrophe.
C'est vrai que ça donne une bonne image encore.
D'après les spécialistes, quelle ville française serait la plus impactée par le réchauffement climatique en 2040?
Marseille.
Non.
Le Havre?
Non.
Rhône-Alpes.
Lyon.
Lyon. C'est la préfectures de Haute-Savoie.
Grenoble.
Annecy, effectivement. Juste devant
le lac,
Lyon, et troisième Saint-Étienne. On est au bout de la vallée du Rhône, et effectivement Annecy, c'est aussi non mais c'est coincé dans les Alpes. Il y a moins de circulation d'air. Et d'après les prévisions, en 2100, il devrait même faire à Lyon le climat d'Alger. On sait d'ores et déjà que Lyon a aujourd'hui le même climat que celui de Montélimar il y a 30 ans. Ça, c'est avéré. Et Montélimar, le climat de Nîmes en 1990. Tu le savais, ça, Léa ?
Montélimar, je savais. Nîmes, non.
Voilà. Sous quel seuil doit être contenue la hausse des températures pour respecter l'accord de Paris ?
1,5.
Non.
Enfin, ils disent 2 et idéalement sous 1,5.
Ouais, enfin, c'est 2 degrés.
Oui, mais bien sûr, mais on ne tiendra jamais les 1,5 degrés.
2 degrés, hausse maximale tolérée, parce que si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, le thermomètre pourrait grimper de 4 degrés d'ici la fin.
Et si on suit les pays font des contributions nationales, donc en gros, ils font des politiques publiques, des routes d'émissions, où ils calculent et ils planifient, en fait, ce qu'ils vont faire jusqu'à 2050 ou 2060, selon leur neutralité carbone. Et là, on est à 2,7 degrés, selon les prévisions.
Pour quand ?
Pour 2050.
Donc, ta piscine avant 2050, Joël, trouvée par toi.
C'est impératif, là. Hein. Enfin, tu nous attends, je te dis.
Non, mais 2,7 degrés à la fin du siècle, mais selon les contributions à 2050-2060.
Ouais.
Et les GG, enfin Léa, quel glacier européen menace de s'effondrer? Vous allez pas participer quand même.
Le glacier. Plusieurs en Europe.
Alors, la plus grosse menace en Europe, bon, c'est dans les Alpes, sans surprise. C'est effectivement sur le massif du Mont Blanc. C'est le glacier de Plan-Pincieux sur le versant italien du massif. Un cinquième de ce glacier menace de se détacher, soit l'équivalent de 100 piscines olympiques qui pourraient déferler dans la vallée. La situation est suivie de très près par les géologues.
D'ailleurs, c'est incroyable parce que t'avais un chalet, un refuge qui était côté suisse, et en fait, il est pas, ou alors le contraire, il est passé côté italien à cause du glissement.
La fonte. Voilà.
Non, mais alors c'était un quiz quand même très catastrophique. Il faut savoir que
j'ai pris les prévisions. Il y a des chiffres.
Si on ne fait rien.
Oui, 40 cm.
C'est
si on fait.
Alors merci, c'était le quiz suicide collectif d'Anaïs.
Non mais voilà, alors le problème.
Merci, au revoir. Adieu.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas juste donner ces chiffres comme ça.
Mais Léa, 40 cm de montée des eaux, c'est les chiffres les plus optimistes.
Bah oui, je sais bien. C'est si on fait ça.
Non mais c'est bon.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas. Non, parce qu'il ne faut pas juste donner des chiffres comme ça. Il faut aussi savoir qu'on a les moyens techniques de contenir et qu'il faut juste
un mauvais mot autour de ça. Mais non, Léa, tu mens. Léa. C'est terminé. On est tous foutus, on va tous mourir. Il nous reste peut-être un dernier GG 7 et match dans un instant.
Non, je peux finir juste une seconde.
Non, c'est terminé.
Je continuerai sur le 7 et match. Je m'arrête pas.